Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French. On mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, monsieur, bonjour, il est 13h. Bienvenue au programme de ce mardi 2 juin avec vous Jean-Noël Ducasse pour vous accompagner pendant une heure en français. Et au sommaire de cette émission, le journal, les sports et comme chaque mardi, le journal de la semaine politique. On passe au journal. D'abord les titres. Près de 3 millions de travailleurs australiens bénéficieront d'une augmentation de salaire de 4,7%. La Fair Work Commission a décidé que le salaire minimum, actuellement de 24,95 $, passerait à 26,44 $ de l'heure pour les employés les moins bien rémunérés à compter du 1er juillet prochain. L'ambassadeur de France auprès des Nations Unies, Jérôme Bonafont, s'est adressé au Conseil de sécurité de l'ONU lors d'une session extraordinaire convoquée à la demande de la France. Il a déclaré que rien ne pouvait justifier la poursuite et l'ampleur des opérations militaires israéliennes au Liban. Et puis le plus grand rassemblement australien de penseurs, de leaders et d'acteurs du changement issu des Premières Nations se tient actuellement sur la Gold Coast en Australie. Le sommet IATSIS réunit des experts pour aborder les enjeux qui façonneront l'avenir des communautés autochtones. Et on passe au journal. Près de 3 millions de travailleurs australiens bénéficieront d'une augmentation de salaire de 4,7%. La Fair Work Commission a décidé que le salaire minimum, actuellement de 24,95 $, passerait à 26,44 $ de l'heure pour les employés les moins bien rémunérés à compter du 1er juillet prochain. Les syndicats réclamaient une augmentation de 6%, tandis que la Chambre de commerce et d'industrie demandait une hausse de 3,5%. Le juge Adam Hatcher de la Fair Work Commission explique que cette décision vise à réduire les inégalités salariales entre les sexes, car nombre des travailleurs les moins bien payés d'Australie sont des femmes occupant des emplois occasionnels ou à temps partiel.
We have concluded, regrettably, that it would not be practicable or responsible in the current uncertain circumstances to award a real wage increase for employees, reliant on modern award wage rates, that would be sufficient to close the real wage gap entirely. However, we consider that we should at least ensure that modern award-relied employees generally are not worse off in real terms than they were as at 1 July 2025.
Le président américain Donald Trump affirme qu'Israël et le Hezbollah ont convenu d'une désescalade des tensions. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il indique avoir eu un entretien téléphonique avec le premier ministre israélien, puis un autre avec le Hezbollah. Parallèlement, au Liban, Israël a intensifié son offensive terrestre après la prise du château de Beaufort dans le sud du pays. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence sur la situation au Liban. L'ambassadeur de France auprès des Nations Unies, Jérôme Bonafont, s'est adressé au Conseil de sécurité lors d'une session extraordinaire convoquée à la demande de la France. S'exprimant par l'intermédiaire d'un interprète, il a déclaré que rien ne pouvait justifier la poursuite et l'ampleur des opérations militaires israéliennes au Liban.
Lebanon's sovereignty and territorial integrity are not negotiable. We do not accept the occupation of positions on Lebanese soil or the establishment of the buffer zone. We do not accept evacuation orders, restrictions preventing displaced persons from returning to their homes, or acts of destruction. This includes archaeological sites, notably districts of the city of Tyre, which is listed as a UNESCO World Heritage site. No security consideration can justify a permanent infringement upon the sovereignty of a state.
Les États-Unis et l'Iran ont continué à échanger des frappes ces trois derniers jours malgré un cessez-le-feu Plutôt, les États-Unis ont confirmé avoir frappé des radars et des centres de commandement iraniens durant le week-end. Dans une publication sur les réseaux sociaux, le commandement américain affirme que les frappes contre la défense aérienne iranienne, une station de contrôle au sol et deux drones ont été menés en réponse à ce qu'il qualifie d'action agressive de Téhéran. Les États-Unis affirment que l'Iran avait auparavant abattu un drone américain qui opérait au-dessus des eaux internationales. Un conseiller de haut rang du président ukrainien affirme qu'une fin de la guerre cet hiver est un objectif réaliste. Kiev indique se préparer à recevoir une délégation américaine en Ukraine et en Russie alors que les efforts se poursuivent pour relancer les négociations de paix qui sont au point mort. L'Ukraine a lancé cette semaine des attaques de drones contre des installations pétrolières et des voies d'approvisionnement russes, tandis que la Russie poursuit ses frappes de missiles et de drones sur le territoire ukrainien. En Crimée, sous contrôle russe, les autorités ont instauré un rationnement du carburant après que les attaques ont perturbé les chaînes d'approvisionnement. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme quant à lui que 40% des capacités de raffinage russes sont hors service.
Our warriors now have the capability to reach Russian military logistics across virtually the entire depth of the temporarily occupied territory. There are practically no safe roads left for the occupier in the south and east of our state. This is further proof that there will be no calm times for the occupier on our land.
En Australie, à nouveau, la coalition reconnaît qu'elle devra redoubler d'efforts pour élargir son électorat suite à un sondage de l'Australian Financial Review qui place One Nation en tête des intentions de vote au premier tour. Ce sondage crédite la coalition de 20% des intentions de vote, le Parti travailliste de 28%, tandis que le soutien à One Nation progresse de 4 points pour atteindre 31%. Le député de la coalition, Dan Tehan, affirme que ce sondage reflète un mécontentement général à l'égard du gouvernement.
Two-thirds of the Australian people think the nation is heading in the wrong direction, and I think that's very, very telling. And we've always known that we've got a big job ahead of us. I thought that it was a really bright spot that when it comes to economic management, the coalition is pulling clearly ahead. Now we've just got to broaden that and make sure in 2 years' time when we present to the Australian people that we've got a compelling case across the board.
La dirigeante du parti One Nation, Pauline Hanson, affirme avoir les compétences nécessaires pour diriger le pays, tandis que le parti travailliste exhorte les Australiens à examiner attentivement les propositions de la sénatrice Hanson. Intervenant sur les ondes de Radio 2GB, Madame Hanson déclare être prête à tout mettre en œuvre pour concrétiser le changement que les électeurs réclament.
Well, I'm not going to back away from it. You know, if I'm out there pushing as leader of the political party, pushing my policies and telling people what I want to do for their country, in my country, I've got skin in the game. You know, this is my country. I'm not just here as a politician. I'm here as a representative of the people, having a voice. I'm sick and tired of the way things are going. And of course, do I have the ability to do it? You bet I have.
Le député travailliste Julian Hill affirme que le récent sondage témoigne de la frustration des citoyens face à la hausse du coût de la vie. Il a déclaré sur Sky News que le gouvernement met tout en œuvre pour atténuer cette pression grâce à des réformes du logement et de la fiscalité et invite les électeurs à examiner attentivement le contenu des propositions de Pauline Hanson. Le siège conservateur de Maranoa, fief de David Little Proud et circonscription la plus importante du Queensland, est une cible prioritaire pour One Nation. L'ancien chef des nationaux affirme qu'il serait insensé de considérer son siège comme acquis. David Little Proud.
Well, every election's tough. You don't take anything for granted these days. It's a fragmented electorate. And in fact, demographics change.
Le trésorier Jim Chalmers exhorte la coalition à ne pas s'opposer aux mesures budgétaires proposées par le Parti travailliste au Parlement cette semaine. sous la pression suite à la décision de supprimer les avantages fiscaux sur les investissements immobiliers, les actions. Le Parti travailliste affirme que l'abrogation de ces mesures entraînerait un manque à gagner de plusieurs dizaines de milliards de dollars pour le budget. Dans une estimation des coûts rejetée par le porte-parole des finances de l'opposition, Tim Wilson, Jim Chalmers déclare que la politique de l'opposition mènerait à une très grande perte d'argent de plusieurs milliards de dollars.
We call on them to vote for these sensible changes when they come before the Parliament. Last point I'd make is this. We've heard that the Coalition is preparing some kind of stunt when it comes to coming up with an excuse not to vote for Labor's tax cuts. We remind everyone that the Opposition has already committed to $110 billion of uncosted and unfunded commitments over the forward estimates and more than $500 billion of unfunded, uncosted commitments over the medium term. As well.
Le plus grand rassemblement australien de penseurs, de leaders et d'acteurs du changement issus des Premières Nations se tient actuellement sur la Gold Coast au Queensland. Le sommet IATSIS réunit des experts pour aborder les enjeux qui façonneront l'avenir des communautés autochtones. Cette année, pour la toute première fois, l'événement affiche complet. Nakisha Smith, qui travaille pour l'unité des Aborigènes au sein du département des mines, du pétrole et de l'exploration à Kalgoorlie, se dit enthousiaste quant aux opportunités de networking. Le gouvernement du territoire du Nord affirme que le développement accéléré d'une mine de terre rare près d'Alice Springs permettra de dégager plus rapidement des bénéfices locaux et mondiaux. Le projet Nolan's Arafura Rare Earths est un premier. Le premier projet d'envergure à être approuvé en vertu de la loi Coordinator Act du Northern Territory qui accélère les procédures gouvernementales pour les projets jugés d'importance économique. Ce projet figurait parmi les priorités d'un accord sur les minéraux critiques signé l'an dernier entre les États-Unis et l'Australie prévoyant un investissement de 5 milliards de dollars dans les projets australiens de minéraux critiques. La ministre en chef du territoire du Nord, Lia Finocchiario, déclare que le projet Nolans, d'un montant de 1,6 milliard de dollars, représente le plus important investissement minier de l'histoire du territoire.
We know what this does is put the territory on the global stage to say we can deliver, we will deliver, and we have a role to play in making this nation strong and delivering for our allies in the region as well.
La 9e édition de Choose France, avec un montant record de 93 milliards d'euros d'investissements étrangers portés en grande partie par des projets colossaux d'infrastructures informatiques. Précision et reportage de Théo Renaudon pour Radio France Internationale.
Avec un Parlement bloqué et une élection présidentielle plus qu'incertaine, il y aurait de quoi effrayer les investisseurs étrangers. Mais l'économie française reste plus attrayante qu'ailleurs, plus solide même, vu le contexte international. C'est en tout cas ce qu'a plaidé le ministre français de l'économie, Roland Lescure.
Franchement, quand je me compare, je me console. L'électricité décarbonée est pas chère, qui fait qu'aujourd'hui on est moins exposé, plutôt mieux protégé qu'un certain nombre d'autres économies à la crise évidemment du Golfe, sur le marché du travail, sur la fiscalité, sur la simplification des procédures. La France est positionnée, y compris géographiquement, à un endroit stratégique. On a des avantages, soyons-en fiers.
Arguments entendus, notamment par le groupe japonais Oriba. Eux fabriquent des instruments pour mesurer la pollution de l'air, par exemple. Son patron en France, Laurent Fulana, est confiant.
Même si les événements récents peuvent apporter de l'incertitude, on croit que les tendances de fond, qui sont la décarbonation, l'environnement, le bien-être, la santé, resteront des tendances porteuses et donc on a une vision plutôt moyen et long terme sur ces enjeux-là et c'est ça qui guide nos investissements.
Ce groupe japonais va donc investir 20 millions d'euros en France et créer 150 emplois.
Et on passe à la météo pour ce mardi en Australie. À Perth, il fera 19 degrés. Adélaïde 18, Melbourne 17, Hobart 13, Canberra 13, Sydney 21, Brisbane 24, Darwin 30 et à Alice Springs maximal de 25 degrés. Voilà, fin de ce journal et merci à vous de l'avoir suivi.
voyager à travers l'Australie, des terres Epiwai jusqu'à Yarraba, avec The Biennale of Sydney Rememory Revealed Collection. Cette série propose des entretiens avec 10 artistes autour de la mémoire, de l'identité et d'histoires longtemps restées dans l'ombre. Entrez dans leurs univers créatifs et découvrez des récits puissants, profondément humains, qui continuent de résonner bien après le visionnage. The Biennale of Sydney Rememory Revealed Collection est désormais disponible gratuitement en streaming sur SBS On Demand.
Et on enchaîne avec le journal des sports qui vous est présenté par Bertrand Tungandamé.
Actualité sportive des derniers jours, on revient sur le back-to-back réussite du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Au terme d'une finale irrespirable contre Arsenal au Puskás Arena de Budapest, les Parisiens l'ont emporté au tir au but. C'est le deuxième titre consécutif pour le club de la capitale qui confirme son hégémonie absolue sur le football européen. Compte rendu de la rencontre avec Cédric de Oliveira.
Que ça n'avait rien à voir avec la finale de l'année dernière, parce que le PSG avait été flamboyant l'an passé en finale avec une démonstration à 5-0 face à une équipe de l'Inter Milan qui avait pas du tout existé. En tout cas, Paris avait montré quelque chose de formidable, sans doute une des plus belles finales de ces dernières années. Et là, à l'inverse, on a eu une finale très étriquée face à une équipe d'Arsenal qui a tout simplement réalisé le début de match parfait avec un but très très rapide de Kai Havertz. Et derrière, ça a mis beaucoup de doutes dans la tête du Paris Saint-Germain qui a eu beaucoup de difficultés à rentrer dans cette finale. Mais d'autres forces, d'autres possibilités pour Paris, c'est-à-dire être capable justement de s'imposer malgré des événements contraires. Et c'est l'abnégation de ces Parisiens qui a fini par faire la différence. Ce pénalty provoqué par Kvaratskhelia, transformé par Ousmane Dembélé. Et ensuite, une sorte de confiance un peu inébranlable dans ce qu'ils sont capables de faire, les Parisiens, et notamment d'aller remporter une séance de tir au but. C'est la sixième d'affilée pour le PSG, donc il y a une sorte de... d'habitude et de confiance en eux, en tout cas, qui s'est manifestée sur ces tirs au but. Et donc, c'est une deuxième Ligue des Champions qui a été plus laborieuse, en tout cas en finale. Mais c'est une Ligue des Champions, en tout cas, vaillamment obtenue par ce Paris Saint-Germain.
Un back-to-back a donc réussi pour le PSG, au grand soulagement des fans qui avaient suivi la rencontre souvent sur écran géant en hexagone et ailleurs dans le monde. Nicolas Bonita et Baptiste Coulon sont allés à leur rencontre.
Au bout du suspense, la délivrance. Paris conserve son titre et la pression retombe pour Chaïma, passé par toutes les émotions.
Incroyable, vraiment, le match s'est joué jusqu'à la dernière minute.
C'était irrespirable à la fin.
Non, c'était pas possible. Les tirs au but, j'ai pas regardé, mais on a gagné. J'avais confiance aux joueurs, je savais que la deuxième étoile, elle nous appartient. Et on est champions, hein, encore une fois.
Et qu'importe si le PSG n'a pas joué son meilleur football, les Parisiens n'ont rien lâché et c'est tout ce que retient Baptiste.
Ça n'a pas été un match simple, mais j'ai envie de dire, on a affronté la meilleure équipe d'Europe en défense. Et honnêtement, merci d'avoir cette conviction de revenir au score, parce que c'est le premier club français à remporter la LDC en étant mené 1-0. Merci à Paris.
Vous êtes fait tatouer la première étoile sur le torse.
Bien sûr, parce que c'est historique. Et là, si on peut en avoir 100, on en aura 100. Tout le corps rempli d'étoiles du PSG, c'est magnifique.
L'ivresse de la victoire autorise à rêver toujours plus grand. En attendant, c'est bien une deuxième étoile que Baptiste promet de se faire tatouer sur le torse la semaine prochaine.
Et à quelques jours du coup d'envoi du Mondial 2026 en Amérique du Nord, la planète football s'active. La France, les États-Unis, le Sénégal et les Socceroos d'Australie peaufinent leurs automatismes à travers les ultimes matchs de préparation. Dimanche soir, les Socceroos se sont inclinés 1-0 contre le Mexique en match amical de préparation à la Coupe du Monde. En marge de cette rencontre, Tony Popovic, le sélectionneur national australien, a dévoilé la liste de 26 joueurs pour le Mondial. Ce, avec deux joueurs n'ayant encore jamais porté le maillot national. Le milieu de terrain, Christian Volpato, et l'attaquant Tete Yenge, récemment éligibles, feront leur début en équipe nationale lors de ce tournoi. Leur dernier match de préparation aura lieu contre la Suisse au Snapdragon Stadium de San Diego le 6 juin prochain. Entre-temps, les États-Unis ont battu le Sénégal 3-0 lors d'un match amical de préparation pour le Mondial. C'était dimanche soir au Bank of America Stadium de Charlotte en Caroline du Nord. Écoutons la réflexion de Pap Diaw, sélectionneur des Lions de la Teranga, à l'issue de la rencontre.
On n'a pas posé les pieds sur le ballon et ça nous a mis en difficulté. Donc je pense que c'est eux qui, leur plan de jeu était bien. Donc ils nous ont mis vraiment, ils nous ont posé des problèmes. Donc nous, on va continuer notre préparation. On sait qu'il nous reste encore des jours et aussi une semaine très très lourde qui nous attend et chargée pour continuer notre préparation pour être prêt le 16.
Il faut souligner que c'est le dernier match préparatoire des Lions de la Teranga avant leur match d'ouverture contre la France le 16 juin prochain. Et toujours en préparation de cette Coupe du Monde, la France accueille ce jeudi la Côte d'Ivoire en match amical. Concernant l'actualité de la Coupe du Monde, le grand fait marquant du week-end est extra-sportif. En effet, l'Afrique du Sud a dû reporter en urgence son voyage vers le Mexique, un véritable fiasco administratif lié à l'obtention des visas, notamment pour transiter ou jouer aux États-Unis pour la suite du tournoi. Ce imbroglio a cloué les Bafana Bafana au sol à Johannesburg. Le ministre des Sports a fustigé une situation embarrassante, même si l'avion charter devrait finalement décoller in extremis après des longues heures de négociations diplomatiques. Et au football féminin, les Matildas insistent sur les vertus de l'expérience alors qu'elles intensifient leurs préparatifs pour la Coupe du Monde féminine 2027. Alors que l'équipe féminine australienne s'apprête à affronter le Mexique lors des deux matchs amicaux à domicile, la défenseur vétérane Steph Cutley affirme que les joueuses expérimentées sont essentielles à la réussite des Matildas. On l'écoute.
There's lots of chat around age and bringing youth in, but I think we've still been able to do that, and I think the value of having experienced players around the team, you can't really replace that. It's leadership, it's knowledge of the game, going into major tournaments, it's being calm in stressful moments and making big decisions and taking the weight off the younger players to allow them to flourish and allow them to play with no stress and no pressure.
Au tennis, Joao Fonseca est la sensation absolue des 7 quinzaines de Roland-Garros. Le jeune Brésilien de 19 ans est en train de s'offrir une ascension fulgurante. Anne Dufour-Cornier, RFI.
Joao Fonseca, après avoir éliminé Djokovic en 5-7 au troisième tour, il s'offre à 19 ans son tout premier quart de finale en Grand Chelem. 3h58 d'effort sur le court Philippe Châtrier, un spectacle qu'a observé le triple vainqueur brésilien de Roland-Garros, Gustavo Kuerten, un compatriote qui a apporté Joao Fonseca ému au moment de s'exprimer sur le court.
It's an idol for our sport, for our country. And for his charisma, for the way that he is, for the...
Ainsi, le tennis mondial aura trouvé sa nouvelle étoile. Côté dames, toujours tôt ce matin, la numéro 1 mondiale, Arina Sabalenka, a écarté la japonaise Naomi Osaka en deux manches, 7-5 et 6-3. Par contre, côté tricolore, l'aventure s'est arrêtée. Diane Paris, qui portait sur ses épaules les derniers espoirs du clan français dans les tableaux de simple, a vu son beau parcours prendre fin en huitième de finale. Elle a été éliminée logiquement par la polonaise Maja Szczelinska 6-3, 6-2. Et toujours au tennis, coup de tonnerre de la semaine, à 44 ans, Serena Williams a officiellement confirmé son retour à la compétition de haut niveau. Près de 4 ans après ce qu'on pensait être ses adieux à l'US Open 2022, la détentrice de 23 tournois du Grand Chelem a accepté une invitation, Wildcard, pour s'aligner en double au tournoi sur gazon du Queens la semaine prochaine aux côtés de la jeune Canadienne Victoria Mboko. Et en cyclisme, le rideau est tombé sur le Giro d'Italia 2026 avec la victoire du Danois Jonas Vingegaard. Il rejoint le club très fermé des coureurs ayant remporté les trois grands tours, le Tour de France, la Vuelta et désormais le Giro. L'Autrichien Félix Gall et l'Australien Jay Hindley complètent le podium. Et au basket, le rideau est tombé sur la saison 6 de la Basketball Africa League, la BK Arena de Kigali au Rwanda, devant un public en fusion. La franchise rwandaise de RSSB Tigers a créé une surprise monumentale en finale en battant les géants angolais de Petro de Luanda 90 à 88. Reportage depuis Kigali, Lucie Mouilleux pour RFI.
Un stade en explosion au coup de sifflet final. Dans les gradins, Teslim savoure la victoire.
On est vraiment content. J'ai suivi plusieurs matchs et l'ambiance est toujours incroyable. On cherche déjà où célébrer la victoire et où trouver les maillots du RSSB.
Les RSSB Tigers marquent l'histoire du basket rwandais pour leur première participation à la balle, l'ailier américain Tiffal Lennard Jr.
Personne ne nous attendait, personne ne pensait qu'on allait même se qualifier pour les phases finales. C'est vraiment incroyable. Et avec les supporters à domicile, c'est vraiment spécial.
Une victoire face au Petro de Luanda, l'équipe la plus expérimentée de la balle. Mais pour le pivot Mangok Matiang, les Tigers n'ont jamais cessé de croire en leur force.
On s'était promis d'y arriver, peu importe ce qu'on avait en face de nous. On allait se relever, garder les yeux rivés sur l'objectif et avancer. Et c'est ce qu'on a fait, parce qu'au fond, ce n'est pas le départ qui compte, c'est l'arrivée.
Une première saison dans la balle couronnée de succès, les Tigers repartent en plus du trophée avec les récompenses du meilleur entraîneur, défenseur et joueur de l'année.
C'est tout pour l'actualité sportive de ce mardi. Merci de rester à l'écoute de SBS French.
Et maintenant, dans la série Australia Explained de SBS, on va vous expliquer la signification du drapeau aborigène. Et vous êtes en compagnie de Bertrand Tungandamé.
Avez-vous déjà vu un drapeau rouge, noir et jaune flotter aux côtés du drapeau australien? Il s'agit du drapeau aborigène. Il représente les peuples premiers d'Australie ainsi que leur lien avec la terre, la communauté et les récits ancestraux. Pour beaucoup, cette bannière est bien plus qu'un emblème. Il symbolise la force, la résilience et l'identité des Premières Nations. Bien que l'Australie possède un drapeau national officiel, le pays en reconnaît trois. Le drapeau australien, le drapeau aborigène et le drapeau des insulaires du détroit de Torres. Le drapeau aborigène n'a pas toujours existé. Il a été créé en 1971 par l'artiste et militant Lorija Ewombai, l'oncle Harold Thomas, premier diplômé aborigène de l'École des Beaux-Arts d'Australie-Méridionale. Ce drapeau a été hissé pour la première fois le 12 juillet 1971 lors d'une manifestation pour les droits fonciers à Adélaïde, à l'occasion de ce qu'on appelait alors le National Aborigines Day, une expression aujourd'hui considérée comme dépassée. L'année suivante, il devient un symbole fort de l'ambassade aborigène, installée sous tente à Canberra, incarnant la lutte pour les droits territoriaux et l'autodétermination. En 1995, le gouvernement australien reconnaît officiellement la bannière aborigène comme l'un des drapeaux de l'Australie. Son design est simple, mais chargé de sens. Le noir représente les peuples aborigènes, le rouge symbolise la terre et le lien au territoire, tandis que le cercle jaune évoque le soleil au cœur de la vie. L'artiste émergente et femme Gomeroi, Jed Brennan, explique ce que cette bannière incarne pour elle.
Flags, they represent identity. When I see the flag, I see my country, I see my people, and I see the sun, which is the creation. The sun is what brings the people and our land together. And it's something that we carry. Our land is so important to us. It's something that needs to be shown. Having the flag is basically displaying who we are as a nation. It's Aboriginal people.
Pour saisir l'évolution historique de cette bannière, écoutons Auntie Susan Kendall, une femme Wanaroa qui a grandi dans la ville régionale de Condolobin en Nouvelle-Galles du Sud dans les années 60 et 70. Elle se souvient d'une époque où les drapeaux aborigènes étaient rarement visibles. Son premier souvenir de ce drapeau ne vient ni de l'école, ni d'un bâtiment officiel, mais de la télévision.
I actually saw the flag on telly in a protest. All the TV, the media back in the day was negative. So it was about, you know, these people protesting and here's this flag that to me looked like a German flag, but it wasn't quite a German flag. That was my first experience of seeing an Aboriginal flag.
Plus tard, lorsqu'Auntie Suzanne est devenue enseignante, le drapeau était encore peu présent dans les écoles.
In the beginning of my teaching experience, wasn't a subject. It was, by the way, here's a colouring in. It's an Aboriginal flag. Does anyone know the colours and what they stand for? That was as far as Aboriginal education went in the early days.
Pour sa génération, le drapeau aborigène était surtout associé aux manifestations ou à la télévision. Il ne faisait pas encore partie du quotidien australien. Ça, c'est ton peuple, disait Jed en grandissant avec ce drapeau autour d'elle. Pour les jeunes aborigènes comme Jed, l'expérience est très différente. Ils grandissent entourés de leur drapeau. Jed a passé son enfance à Matraville, dans l'est de Sydney, et se souvient d'une fresque murale qui l'a profondément marqué.
I don't remember the first time. I don't remember, but it's always been around. I think I saw it most in the area I grew up in Matraville, going down to Cajaga. I used to go to this daycare there, and I just remember there used to be this big Koori flag mural, and it was so big, it was overwhelming for my little body.
En grandissant, Jed a vu le drapeau aborigène prendre place progressivement dans la vie quotidienne.
Seeing the flag on clothing or temporary tattoos at school, we would all trade them in the bathrooms. It's comforting to know who's with you, especially when we all look so different.
Pour Jed, ce drapeau permet d'identifier les membres de sa communauté et leurs alliés, même au milieu d'une foule. Lorsque le drapeau aborigène est devenu un des symboles officiels de l'Australie en 1995, Auntie Susan a remarqué des changements progressifs.
When it became official and the flags were flying, you sort of noticed the council has the flag flying, but the school didn't have it flying, or the police didn't have it. You saw it once and you just thought, that's great.
Avec le temps, le drapeau est passé d'un symbole rare à un élément normal du paysage australien.
You see the little Aboriginal flag stickers on cars. I just love that. I love seeing that. Everybody knows, whether they accept it or are proud of it, it doesn't matter. It's there now, it's legal, it is the Aboriginal flag, it represents our people.
Pour Jade, voir le drapeau aborigène à l'entrée d'un bâtiment change immédiatement l'atmosphère du lieu.
When I go into a space, I want to feel accepted and knowing that the flag is out there. Usually they're out the front where you're welcomed in. So I think it's really important for young First Nations to see flags welcoming into the space.
Pour ces deux femmes, la présence du drapeau aborigène dans les lieux publics, devant les écoles, sur les ponts, lors des rassemblements, sur des vêtements ou des tatouages est devenue une source importante de fierté et de connexion. Mais cette histoire comporte aussi un autre volet. Pendant de nombreuses années, un débat juridique et culturel a entouré l'utilisation du drapeau aborigène. En tant que créateur, en effet, du drapeau, l'oncle Harold Thomas détenait les droits d'auteur et accordait des licences d'utilisation, notamment à une entreprise privée chargée de gérer le drapeau sur les vêtements et produits dérivés. Certaines organisations et communautés aborigènes ont alors reçu des mises en demeure juridiques, leur interdisant d'utiliser le drapeau sur des t-shirts ou d'autres produits sans autorisation ou paiement de redevance. En réponse, la marque de vêtements autochtones Clothing the Gaps et plusieurs alliés ont lancé la campagne Free the Flag. Ils réclamaient une intervention du gouvernement fédéral afin que le drapeau soit traité comme les autres drapeaux nationaux et non comme un logo privé. Après des années de mobilisation, le gouvernement fédéral annonce en 2022 avoir acquis les droits d'auteur du drapeau aborigène auprès de l'oncle Harold Thomas. Le drapeau aborigène est désormais libre d'utilisation publique comme le drapeau australien. Des gens peuvent l'utiliser sur des vêtements, des œuvres d'art ou des produits dérivés sans avoir à payer de licence ni craindre des poursuites judiciaires. Pour beaucoup, cela donne le sentiment que cette bannière a été enfin rendue au peuple qu'il représente. Avec le recul, Auntie Suzanne estime que le drapeau des peuples premiers a contribué à transformer le regard porté sur l'Australie aborigène, même si, selon elle, il reste encore du chemin à parcourir.
The Aboriginal flag means something. Everybody now knows what it's about, who it represents. Enjoy and learn the culture, especially Aboriginal culture, because this is where you're living. Understand it. You don't have to live it. Understand it and be proud. Be proud you're here and proud of your own flag.
Désormais, si vous voyez le drapeau aborigène, vous connaissez son histoire et ce qu'il représente. Comprendre cela est une étape vers une compréhension plus profonde de l'Australie. Cet épisode a été produit en anglais par Nikaya Hutchings pour Australia Explained et traduit en français par Bertrand Tungandamé pour SBS French.
h 44 sur les ondes de radio SBS, vous écoutez le programme en français. Les élections consulaires se sont terminées dimanche et les résultats ont été proclamés hier lundi. Élise Léger, en Australie, à la tête d'une liste indépendante, est arrivée en première place avec 27% des voix, devançant la liste de Jean-Philippe Grange. Reportage de Grégory Pless pour SBS French.
français sur Radio SBS.
La semaine passée se sont tenues partout dans le monde les élections consulaires qui se sont terminées en Australie samedi et dimanche par des votes à l'urne. Des élections donc qui permettent aux Français de l'étranger d'élire des représentants auprès des autorités diplomatiques dans leur pays de résidence. En Australie, les votants qui ont très largement opté pour le vote électronique ont placé la liste portée par Élise Léger en tête avec un peu plus de 27% des voix. Sa liste, soutenue par le parti présidentiel en 2021, se présentait cette année comme indépendante. Elle obtient 2 élus ainsi qu'un délégué en Tasmanie. En seconde position, la liste qui était arrivée en tête il y a 5 ans, celle portée par Jean-Philippe Grange et soutenue par Europe Écologie Les Verts, avec 26% des voix, cette liste obtient également 2 élus. Avec 14% des voix, la liste Élan Citoyen arrive en 3e position. Sa tête de liste, Serge Thomann, obtient le 5e et dernier siège d'élu au sein du conseil consulaire. Il est également le seul habitant à Melbourne. L'Alliance solidaire des Français de l'étranger, l'ASFE, emmenée par Valérie Villiers en Australie, arrive pour sa part en 4e position avec 12% des voix. Cette liste est suivie de près par la liste Agir Ensemble, portée par Charlie Strasbach, collaborateur parlementaire de la députée Anne Genté, qui décroche 11% des voix. C'est là une grosse déconvenue pour cette liste investie par le parti Renaissance. Enfin, en queue de peloton, la liste Team Français d'Australie, menée par Sébastien Valéry, obtient pour sa part 10% des voix. Avec un taux de participation de 17,2% dans cette circonscription, englobant donc l'Australie, mais aussi Fidji et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Français se sont peu mobilisés pour cette élection, même un peu moins d'ailleurs qu'il y a 5 ans. Néanmoins, ce taux de participation est nettement supérieur à la moyenne mondiale. Mais en fait, à quoi servent ces conseillers des Français de l'étranger? Eh bien, tout d'abord, il faut savoir qu'ils sont élus pour un mandat d'une durée de 6 ans et que leur rôle principal, c'est de représenter la communauté des Français dans le pays dans lequel ils ont été élus auprès des ambassades et des consulats. Ensuite, ils peuvent donner leur avis sur les demandes de bourses scolaires, d'aide sociale, de subventions aux associations. Et enfin, ils ont un rôle un peu plus politique qui est d'élire les sénateurs des Françaises et des Français de l'étranger ainsi que les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger. Ceci étant dit, leur rôle est éminemment consultatif, qui plus est, ils ne disposent pas d'un budget en propre qui leur permettrait, par exemple, d'allouer eh bien certains fonds à certaines actions particulières. Ils ne sont là donc que pour donner leur avis.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Et enfin, l'émission un rappel des titres du journal de ce mardi. Près de 3 millions de travailleurs australiens vont bénéficier d'une augmentation de salaire de 4,7%. La Fair Work Commission a décidé que le salaire minimum actuellement de 24,95 $ passerait à 26,44 $ de l'heure pour les employés les moins bien rémunérés à partir du 1er juillet prochain. Et puis au Queensland, le plus grand rassemblement australien de penseurs, de leaders et d'acteurs du changement issus des Premières Nations qui se tient sur la Gold Coast. Le sommet IATSIS réunit des experts pour aborder les enjeux qui façonneront l'avenir des communautés autochtones. Et voilà, nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Belle journée. À bientôt sur SBS en français.